Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants. C'est Chloé Gabrielli, la conteuse, comme je suis heureuse de vous retrouver sur Fréquence 7, cette radio que j'adore. Je sais que vous aussi, vous adorez cette radio différente, décalée, pas pareille, parce que justement, il y a des émissions aussi comme celle-là. Une émission sur le conte. Il y a très peu d'émissions à la radio, que ce soit sur les grandes radios ou les petites, où vous pouvez écouter des histoires comme ça, racontées par une conteuse professionnelle. Oh, c'est pas mal, non? Eh bien, c'est sur Fréquence 7, voilà. Alors, c'est comme pour les voyages, les contes. C'est magnifique d'aller écouter des contes du monde entier parce qu'on apprend beaucoup de choses, on découvre, on voyage dans son imaginaire, dans sa tête. Mais comme pour les voyages, je vous le disais, il est bon aussi de rester en France. Vous savez que la France est un pays absolument magnifique à découvrir et qu'on aille du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a tellement de paysages différents, de régions différentes à découvrir. Donc si vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde. Visitez déjà la France, il y a déjà plein de choses à voir et à faire. Et ben c'est pareil pour le conte, on peut aller en Asie, en Indonésie, en Russie, en Amérique du Nord ou du Sud, écouter des histoires, mais on peut aussi rester en France. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir les contes et légendes du Dauphiné. C'est pas très loin de chez nous, ça. Allez, c'est parti, tout de suite avec la première histoire. Il était une fois un homme qui s'appelait Bazin. Bazin n'aimait pas travailler. Bazin ne gagnait pas un sou, et cependant, Bazin était gras. Il vivait d'ingénieuses maraudes, de menus larcins longuement prémédités, mais personne n'avait jamais réussi à le prendre sur le fait. « Prouvez-le !» disait sa femme, la Rose. « Prouvez-le que Bazin est un maraudeur !» Prendre Bazin la main dans le sac n'était pas possible. Et c'est là que le bât blessait les habitants de Corinque. Si la lune ne s'en était pas mêlée, je crois que Bazin promènerait encore sa bedaine par les rues du village. Parfois, Bazin volait une poule. Il avait une façon fort habile de lui tordre le cou sans la faire crier. Ensuite, il l'enrobait de glaise, qu'il faisait durcir sur un feu de pin. Quand de sa hache, il cassait la coque, les plumes restaient agglutinées à la glaise. Une fois enterrées les preuves du larcin, il apportait la poule à sa femme qui se hâtait de la découper et de la mettre à la cocotte. « Ça sent bon chez vous, » disait la voisine d'un air perfide. « Oh oui, » répondait la Rose, « nous avons tué une poule et on est en train de mitonner. Voulez-vous la recette ? C'est une de mes sœurs mariée dans le Morvandio qui me l'a renseignée. » Alors la Rose se penchait sur la cocotte odorante et tendait à sa voisine, qui ouvrait déjà la bouche, un morceau de croupion moelleux et fondant. Mais comme rien ne ressemble plus à un croupion qu'un autre croupion, la voisine n'osait pas accuser Bazin. Et puis Rose avait l'air si naturelle et donnante avec ça. Elle faisait goûter sa cuisine avec tant de bonne grâce. « Ce doit être le renard qui a volé la poule, » disait la voisine en partant. « Oui, c'est sûrement le renard. » Bazin, les lendemains de vogue, était toujours ivre. Vous croyez sans doute qu'il se ruinait au comptoir des boissons ? Naïf que vous êtes ! Tant que durait la fête, Bazin restait à son balcon qui donnait sur la place. Mais il avait toujours à la portée de la main de gros sucres attachés à de longs fils gris pâle. Dès que l'attention du public était attirée par un batteleur ou un bonimenteur, notre Bazin dirigeait sa ligne dans les petits verres d'eau-de-vie aussitôt absorbés par le sucre. Quand les hommes revenaient au comptoir, le contenu des verres s'était évaporé. « Quel soleil !» disait-il en s'épongeant. Il assécherait l'Isère et le Drac. Bazin, la bouche gorgée de sucre alcoolisé, souriait au balcon. Un jour de marché, 1 heure après-midi, alors que les forains, leur étal recouvert d'une bâche, se restauraient à l'auberge de la Pie Borgne, Bazin eut la bonne idée de prendre à plein bras les pièces de drap et de faire irruption dans l'auberge en criant « Au voleur ! Au voleur ! Où est le marchand de drap ? Ah, les chenapans ! Les chenapans ! J'ai pu sauver tout ça !» Il suait, il soufflait, il hoquetait, le chapeau de travers, la blouse en loques. Il répétait sans cesse « Oh, ils m'auraient presque tué, les chenapans ! Les chenapans !» Le marchand, trop content d'avoir ses tissus sauvés, offrit à l'héroïque Bazin un bon déjeuner et 3 aunes de drap d'Elbeuf. Et c'est depuis ce jour que Bazin et Rose sont les plus élégants du village. Bazin avait même habitué son chien Pharo à la maraude. À l'aide d'un vieux jambon et d'une saucisse rance pendue au plafond, il l'avait dressé longtemps et patiemment. Au mot de « Pharo, le maître a faim !» l'animal devait d'un bond se précipiter sur la proie. Si Pharo ramenait le jambon intact, il était récompensé par des sucres. S'il entamait sa proie, s'il était lent ou maladroit, il était battu et il devait jeûner à la cave. Et c'est ainsi que Pharo devint le meilleur complice de Bazin. Un soir que Bazin et Rose prenaient le frais sur le balcon, ils entendirent les voisins chuchoter. Le vicomte de Saint-Laurent ne va pas inviter les petites gens comme nous à ses noces d'argent. Rien que des châtelains des environs, des gros propriétaires, peut-être le médecin et encore... Comme Bazin et Rose devaient eux aussi fêter leur anniversaire de mariage, ou plus exactement leur noce de fer blanc, Bazin glissa dans l'oreille de sa femme. Nous les inviterons le même jour, et nous aussi, Rose, nous ferons ripaille. Et il ajouta plus bas, avec l'aide de Pharo. Le lendemain, Bazin invita ses amis, Joseph Dutu, Xavier le sacristain, la Marie, Martin Gault, les sœurs Jobert, la Sophie, le Jean-Pierre et tous les voisins furent surpris. Chacun se demandait, mais où Bazin prend-il l'argent ? Pour sûr qu'il a dû hériter. Le jour du repas d'anniversaire, les invités en grande toilette commençaient à envahir la maison quand Bazin se pencha sur son chien. Il lui montra la direction du château. « Pharo, le maître a faim » cria-t-il. L'animal qui jeûnait depuis la veille sauta d'un bond. Il fila et traversa la place publique, les champs et le parc de Saint-Laurent à une allure telle que des bêtes et des gens se rangèrent sur son passage en poussant des cris. Arrivé à la porte de la cuisine du château, il cogna du museau. Qu'importe, il sauta par la fenêtre, retomba avec fracas sur une table chargée d'assiettes pour rebondir sur une autre où le maître d'hôtel avait posé le pâté croustillant et doré destiné à la table des maîtres. Et le pâté dans sa gueule, le chien repartit par le même chemin. 3 servantes se pâmèrent. Un valet se signa. Le maître d'hôtel, blessé au front par des éclats de vaisselle, étanchait son sang avec un apron. « C'est le diable !» criaient les cuisiniers plus rouges que braise. « C'est Satan ! On m'avait bien dit qu'il paraissait sous forme d'un chien noir aux yeux sanglants !» Un valet alla informer Monsieur de Saint-Laurent que Lucifer en personne avait dérobé le pâté de Monsieur le Vicomte. Célestin, le maître d'hôtel, quant à lui, se serait remis de son trouble et de ses blessures et passerait au service suivant. « L'impudent !» répondit Monsieur de Saint-Laurent. Il s'excusa auprès de ses invités, se leva et courut à la cuisine, où toute la valetaille à genoux priait pour conjurer le mauvais sort. « Mais êtes-vous fou ? » tonna le maître. « 1000 coups de bâton devaient être le prix d'une pareille effronterie. Vous avez mangé le pâté, coquin, le jour de mes noces d'argent !» Mais devant les blessures du maître d'hôtel et la panique véritable du regard des servantes, Monsieur de Saint-Laurent dut convenir qu'un événement extraordinaire était survenu dans la cuisine. Il ne croyait ni aux esprits, ni au diable, et examinait avec soin les dégâts, espérant en éclaircir la cause. Comme il mesurait les empreintes laissées par l'animal sur une motte de beurre, un grand fracas retentit dans la cheminée. Et Pharo, couvert de suie, plus diabolique que jamais, rebondit à quelques mètres de l'âtre, renversant sur son passage Monsieur de Saint-Laurent, qui tomba la face la première dans une jatte de crème. Pharo se saisit d'un canard, qu'il maintint dans ses crocs, et c'est par la porte qu'entr'ouverte que cette fois le satanique animal disparut. Tout tremblant, le visage barbouillé de crème fraîche, Monsieur de Saint-Laurent, peu soucieux du ridicule, rejoignit la salle à manger. « Adeline, Adeline !» appelait le malheureux. « C'est le diable !» Alors la vicomtesse de Saint-Laurent se précipita dans les bras de son mari. « Adhémar, Adhémar !» répétait-elle. « Quelle épreuve, mon Dieu, quelle épreuve !» Il pleurait, il se cajolait. La vicomtesse, fort friande de crème fraîche, se régalait sur les joues du vicomte. Les invités contemplaient ce spectacle avec attendrissement. Le percepteur, homme plein de tact et de délicatesse, proposa aux convives de se retirer et de laisser le couple de Saint-Laurent se remettre de ses rudes émotions. Alors, dans un bruissement étouffé de soie, le ventre creux, chacun regagna sa demeure. Chez Bazin, ce n'était que rire autour du pâté croustillant. « Vous vous chargerez des vins, avait dit la rose, et chaque convive avait fait suivre qui sa barrique, qui sa gourde, qui sa dame Jeanne, qui sa bouteille pansue. Martingot, après avoir bu quelques pintes, riait à tout propos en découvrant une gencive où s'attardaient quelques dents branlantes, des dents si noires et si ébréchées qu'on ne regrettait pas celles qui manquaient. Il y avait Marie, la fille de ferme aux mains puissantes, rougie par les durs travaux. La pauvre Marie ne prenait pas souvent de repos, et elle était si contente d'être assise à côté du grand Léon. Un bon garçon, ce grand Léon, il n'aurait pas fait de mal à un hanneton. Il y avait Joseph Dutu, un drôle plein d'esprit qui faisait fuser les calembours et rire tout le monde. Personne ne savait où il allait chercher toutes ses fadaises. Il lançait des compliments aux dames et appelait Rose Bazin la fleur de Corinque. Il y avait Xavier le sacristain, à qui la fréquentation des lieux saints avait donné une douceur et une distinction peu communes. Il parlait bas, comme à l'église, mangeait très lentement et s'écartait volontiers de la table pour montrer ses mollets galbés de coton. Il était le seul convive à ne pas manger le pâté avec ses doigts. Il y avait les sœurs Jobert, des jumelles qui approchaient de la quarantaine et qui se désolaient de ne pas avoir encore de mari. Elles avaient le même nez pointu, le même regard myope et un peu triste, et dans le pâté, elles méprisaient également les truffes. Il y avait Jean-Pierre, Sophie et j'en passe, tous aimant le vin et la bonne chère. À peine Xavier le sacristain avait-il achevé délicatement son pâté, que Bazin allait sur le pas de sa porte accueillir Pharo, qui, triomphant, apportait, vous l'avez deviné, le canard. Après le canard, ce fut un gigot, du gibier, et enfin arrivèrent les pâtisseries, les bugnes, les rissoles. Il suffisait à Bazin de crier « Pharo, le maître a faim !» pour qu'aussitôt le chien filât au château de Saint-Laurent, où dans la cuisine abandonnée par les serviteurs, il enlevait un nouveau trophée. La tâche était aisée, trop aisée presque. Chez Bazin, la fête battait son plein. Une jumelle Jobert, on ne sut jamais laquelle, chantait debout derrière sa chaise en regardant Xavier. « Pour moi, j'irai dans un bois solitaire, finir mes jours à l'ombre d'un rocher. Sur ce rocher, le rossignol y chante, soir et matin à la pointe du jour. Et il nous dit dans son joli langage. » Mais la voix de soprane de la jumelle charma tant et si bien le doux sacristain qu'ils se marièrent aux noix. D'ailleurs, Xavier ne sut jamais laquelle des deux sœurs Jobert il avait prise. Martingot dit à la vieille Sophie combien elle était belle à 20 ans. Si elle avait eu une paire de bœufs, il l'aurait volontiers épousée. Mais feu son père, le vieil Augustin, lui répétait sans cesse « Si tu prends Sophie, c'est la misère. Si encore Sophie avait des bœufs !» Et il n'avait jamais osé contrarier son père. Ses souvenirs leur mouillèrent les yeux. Quand tard dans la nuit, la tête farcie de chansons et de bonnes histoires, la démarche un peu hésitante, les convives regagnèrent leur demeure. Il répétait sans cesse « Quels braves gens ces Bazins ! Nous étions sots de croire les histoires qui couraient sur leur compte. Ce sont les plus honnêtes gens de Corinque !» À la faveur des Bazins, alla ainsi toujours croissant dans le village jusqu'à la Saint-Jean. Ce jour-là, Rose ranimait le feu avec quelques brindilles de bois vert qui crépitaient et répandaient une odeur âcre. « La soupe ne sera pas bientôt cuite ?» cria Bazin. « J'ai faim !»« Mon pauvre homme, » dit Rose, « je n'ai plus de bois sec. C'est pourquoi ma soupe ne cuit pas. » Alors Bazin se leva et l'œil rivé sur le pavé, il arpenta la pièce à grandes enjambées. Quand Bazin réfléchissait, Rose s'asseyait sur une chaise basse près du feu, la tête dans les épaules, les pieds sous les barreaux, le chien Pharaon dans les bras. Elle se faisait toute petite afin de ne pas interrompre les méditations du maître. Comme Bazin avait déjà fait 12 allées et 13 venues, Rose vit le visage de son époux s'éclairer d'un large sourire qui rejoignait ses oreilles. Ses yeux se mirent à pétiller, ses pieds à scander une gavotte imaginaire en se dirigeant vers l'armoire. Là, Bazin décrocha son pantalon et sa blouse noire, son saillon. Il les revêtit prestement et embrassa Rose. Il partit d'un bon pas vers le Mont Saint-Énard où s'étageaient les bûchers de la Saint-Jean que Martingo était chargé d'allumer. Après un quart d'heure de marche, Bazin atteignit les premiers tas de fagots gardés par des bergers. Il les contourna sans faire de bruit et grimpa plus avant dans l'espoir de prendre discrètement des fagots préparés pour le bûcher. Hélas, tous les bûchers étaient gardés par des bergers qui appelaient « Tu dors, Martingo ? Martingo, es-tu en bas ? Martingo, es-tu en haut ?» Ce paresseux de Martingo devait dormir dans quelques sapinières. Alors les bergers allumèrent les feux et la bonne odeur de résine brûlée parfuma la montagne. Seul l'extrême sommet du Mont Saint-Énard n'était pas illuminé. Et Bazin y grimpa bien vite. En chemin, il entendit l'écho appeler « Martingo, es-tu en bas ? Martingo, es-tu en haut ?» Bazin se hâta. Au craquement de ses pas, les bergers crurent entendre Martingo et appelèrent de plus belle. La pleine lune, qui se levait au-dessus de la montagne, lui montra le chemin. « Passe par là, Bazin, tu iras plus vite, tu les auras tes fagots. » La lune souriait à Bazin, et Bazin souriait à la lune en suivant ses rayons. Cependant, les voix reprenaient à la cantonade. « Martingo, es-tu en haut ? Martingo, es-tu en bas ?» La lune s'inclina vers Bazin et lui souffla dans le creux de l'oreille. « Réponds, réponds, Bazin, tu vas les avoir, tes fagots, tu auras chaud cet hiver, tu cuiras des bonnes poules !» Et Bazin répondit « Je suis là !» imitant de son mieux la grosse voix de Martingo. Cependant, les bergers se faisaient plus pressants. « Martingo, es-tu en bas ? Martingo, es-tu en haut ?»« Ne réponds plus maintenant, » dit la lune à Bazin. « Dépêche-toi, dépêche-toi, monte plus vite, je vais t'aider, monte sur ce rayon !» Tandis que Bazin s'agrippait au rayon, les bergers se rapprochaient en criant « Martingo, es-tu en bas ? Martingo, es-tu en haut ?» Alors la lune tira, tira, tira si fort qu'elle avala Bazin. Pelotonnée sur sa chaise près de l'âtre, Rose attendit Bazin, qui ne devait plus jamais revenir. Un soir pourtant, elle se pencha à la fenêtre et aperçut un visage d'homme. Elle poussa un cri. L'homme, c'était Bazin, pardi. Bazin la lune. Il n'aurait jamais cru ça, Bazin. De Bazin le maraudeur, il était devenu Bazin la lune. What a wonderful world. Il est déjà temps de se quitter. Ah, ça passe vite quand on écoute une histoire. On se retrouve le mercredi et le samedi à 16h. Et d'ici nos retrouvailles, racontez-vous des histoires.